Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 213. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Hey Paul, t'es en Gaspésie?
Oui, tout à fait. J'en ai pas trop parlé, mais une petite retraite comme ça, ça fait du bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon son est peut-être pas comme d'habitude. J'ai pas tout mon micro de qualité et tout ça. Donc, on s'en excuse pour
c'est
ça.
C'est bon, c'est out of the way. Comme ça, c'est dit.
Ça, c'est dit.
Ouais, mais c'est ça. Donc, moi, je suis sur le bord du fleuve et j'ai pas pu encore profiter du retour des salles de cinéma.
Ouais.
Qui sont ouvertes depuis quelques jours à peine. Donc, bon, c'est pas que toutes les salles au Québec qui sont réouvertes, et même certaines chaînes prennent le temps un peu d'y aller, comme cinéma par cinéma. Et ce que ça cause notamment, c'est une reprise vraiment lente des activités. Il y a eu des chiffres qui sont sortis, puis dans le fond, le premier week-end du 3 au 5 juillet, donc, on parle d'un box-office de 184 000 $ pour le Québec. Et ça, ça représente environ 10% d'une semaine normale, une semaine tranquille, puis mettons 5% ou 3% d'une grosse semaine.
Mm-hmm.
Donc, évidemment, il y a toutes sortes de facteurs qui jouent défaveur des cinémas.
Bah, t'en donner un facteur. Moi, j'étais bien excité de retourner en salle de cinéma, mais j'avais vu tous les films, ou presque, qui étaient à l'affiche. Parce que, ben, par exemple, il y avait, mettons, le Elias Suleiman, que je serais allé voir, mais il a été en VOD. Tu sais, il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça pour certains films d'avoir été disponibles en VOD. Puis, tu sais, par exemple, Portrait de la jeune fille en feu, il est en salle au Beaubien. C'est vraiment malade d'aller voir le film si vous ne l'avez pas vu. Mais, c'est ça, en fait, il y avait très peu de nouveautés. Je pense qu'il y avait genre 10 millions d'étoiles étaient nouveautés. Puis c'était à peu près ça. Ça pourrait expliquer peut-être là, la reprise plus lente, là, à mon œil, je sais pas.
Et aussi, c'est qu'aux États-Unis, bon, on voit la situation, évidemment, la propagation du virus, tu sais, qui s'intensifie de semaine en semaine.
Non, c'est un rire de malaise.
c'est un rire nerveux. Ouais. Mais donc les cinémas eux-mêmes repoussent un peu les sorties des films, dont le plus gros, on va le dire, c'est Tenet, là, de Christopher Nolan.
Ouais.
C'est comme le cheval de Troie de la réouverture des cinémas.
Ils l'ont comme reporté 4 fois, là.
Ouais.
Ben, c'est ça. Puis à chaque fois que ce film-là est reporté, ben, les salles sont comme, ben, on va attendre un peu. Et là, on va attendre un peu parce que le virus se propage de plus en plus. Puis aux États-Unis aussi, c'est que les États ont chacun leur propre politique interne.
Mm-hmm.
Donc, tant qu'il n'y aura pas une majorité des cinémas ouverts et ainsi qu'une situation sécuritaire, on a l'impression qu'il n'y aura pas vraiment de nouveautés américaines qui vont prendre l'affiche. Et force est de constater qu'au Québec, sans le cinéma américain, je pense pas que c'est rentable le cinéma. C'est aussi triste à dire que ça peut avoir l'air là, comme constat, mais j'ai l'impression que si on a juste le cinéma international et québécois, le cinéma dans le système qu'il est actuellement, ne pourrait pas survivre. Ensuite, il y a plein de salles indépendantes, je pense qu'ils s'en tireraient tout à fait très bien.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est les Guzzo, ils peuvent définitivement pas survivre, ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, les salles, genre le Clap, la Maison du Cinéma, le Beaubien, bon, tu sais, le Moderne, même si c'est très peu de place finalement qui peuvent être là en ce moment, cette salle-là, mais tu sais, ce sont pas les plus. Ils s'en tirent mieux que, finalement, beaucoup mieux qu'un Guzzo, par exemple. Tu sais, c'est évident.
Ouais.
Mais en fait, c'est que. Ça sera peut-être juste un bon moment de réflexion de notre consommation cinématographique. T'sais, on a tellement parlé pendant la pandémie de consommation locale, mais comme tout le monde continue à payer son abonnement Netflix, puis c'est de l'argent qui sort de notre système local. Puis je trouve pas qu'on en parle assez de ça, d'une certaine façon. Fait que si on peut comme un peu avoir les réflexes qu'on a acquis pendant la pandémie sur certaines autres sphères économiques, un peu plus avec la culture, finalement, ben ça aurait peut-être ça de bon. Là. Une genre de je sais pas, juste une inclinaison supplémentaire là, à peut-être consommer local d'une certaine façon, je sais pas.
Ouais, mais les services aussi ici comme Tout.tv, comme Tank qui est arrivé au Québec l'an dernier, je pense, ainsi que d'autres comme ça. Oh non, c'était au début de l'année. Et d'autres services comme ça qui effectivement on peut les encourager puis s'abonner et louer aussi des films québécois, tu sais, comme. Si tu loues un film québécois sur une plateforme comme iTunes, ça donne quand même de l'argent aussi à cette équipe-là.
Ouais.
Donc, ça, c'est cool.
Il y avait aussi, il y a aussi on avait parlé la semaine passée des vieux films comme les Spielberg qui avaient repris le top. Ouais. Puis, fun fact, cette semaine, il était censé sortir le nouveau Ghostbusters. Puis le Ghostbuster original de 84, il est revenu au top du box-office américain. Fait qu'il y a comme un genre de retour de la balance aussi de plein de classiques. Là. C'est quand même surprenant.
Ouais, c'est clair. Mais tu sais, ça montre vraiment les films comme qui traversent les films chéris. Puis je l'ai dit dans un podcast, il y a peut-être quelques épisodes. Moi, ça a été, ma quarantaine a été en proportion là, beaucoup plus de revisionnement. On dirait que je me retournais vers des cinéastes et des films qui me faisaient du bien. C'était comme ma façon à moi de couper, là, en bon français. Là. Puis je dois pas être tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reclaqués des Lord of the Rings, des Parrains, des Star Wars. Là. Je sais pas, tu sais, tous ces films-là pendant la quarantaine, c'est comme une petite couverture qui fait du bien. Ouais.
Les pop stars never stop.
Ah, ben ça, c'est ton affaire à toi, ça. Ça, c'est ton hit personnel. Là.
On est des dizaines, Pascal, des dizaines.
Ouais.
Bon, parlant de hit chéri de plaisir coupable.
Ouais, ok.
Pascal, t'as été invité à un podcast de notre collègue ami Maxime Amérec, Xanadu.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Très bon titre de podcast en passant.
Ouais.
Présente-nous ce podcast-là.
Ouais, ben c'est ça, c'est Maxime Labrec qui chapeaute ça. C'est à l'émission, ben c'est à CIBL, là, à la radio, mais évidemment, comme presque toute bonne radio en 2020, on peut l'écouter aussi en balado.
Mm-hmm.
Puis, il reçoit des invités deux par semaine. Je pense que c'est par semaine. Je pense que c'est par semaine. Puis là, c'était Alex Perron, puis moi. Puis l'idée, un peu, c'est plaisir coupable musical, le premier pan, puis le deuxième pan, plaisir coupable cinématographique. Puis je pense que Maxime, il aime ça, débattre un peu de l'idée même de c'est quoi un plaisir coupable. Est-ce qu'on accepte finalement cette définition-là, tu sais? Fait qu'on a une discussion sur le concept, puis ensuite, on peut attaquer certains sujets. Puis il nous demande d'avance c'est quoi, tu sais, pour un petit peu se préparer. Mais fait que moi j'ai dit, bah écoute, Cyndi Lauper en musique, puis Detroit Rock City en cinéma. Fait que c'était bien drôle. En tout cas, j'ai pu jaser quand même de long en large. Je pense que j'ai jamais jasé de 20 minutes de Detroit Rock City à point de vue. Fait que j'ai pu me reprendre à Xanadu. Vous checkez ça.
C'est quand même un drôle de choix, tu sais, sachant le nombre de films que tu as vu. Je savais pas que ce film-là avait une place aussi importante.
Oui, quand même. Puis, tu sais, on avait parlé il y a quelques épisodes de les films qui vieillissent mal. Puis, tu sais, des films de 99, là, comme je l'ai dit même dans le podcast, dans l'autre podcast, mais c'est l'année d'American Pie. Puis, on arrivait dans ces comédies-là d'adolescents. Puis, même en musique, hein, il y avait un crossover par rapport à ça. Tu sais, c'était Blink-182 qui était comme sur le top des charts. Puis, tout ça, tu sais, il y avait vraiment. C'est ça. C'était comme l'adolescence était genre sur un piédestal, d'une certaine façon. Puis, mais Detroit Rock City, il fait vraiment bien. Je trouve que s'il y en avait un à garder de cette espèce de courant-là, il y a celui-là.
Puis, il me semble que c'était vraiment badass.
En fait, je pensais que c'était un film que les gens aimaient, jusqu'à ce que, quand ils me posent la question, là, je fais ça de fouiller dans ma tête, là, puis de me dire, c'est quoi le film que j'aime, tu sais, que le monde n'aime pas, là. Puis, Detroit Rock City, il a 34 sur Metacritic. Il est dans le rouge, là, vraiment dans le rouge. Puis c'est en lumière de la réception critique désastreuse que j'étais pas du tout au courant. T'sais, moi, la première fois que t'écoutes Detroit Rock City, tu t'en calises des critiques, là. T'sais, t'as genre ans, puis tu le pognes en français à DQS, puis tu capotes, là, tu sais. Fait que je savais pas que c'était un film qui avait été bâché, tu sais. fait que c'est pour ça.
C'est comme le meilleur film de Linklater que Linklater a pas fait, là.
Ben, ouais, peut-être, tu sais. Puis c'est qu'en plus, genre, j'ai même oublié le nom du réal, tu sais, c'est pas pour dire. Mais tu sais, tant qu'à moi, c'est un film de Gene Simmons, là. Tu sais, tant qu'à moi, c'est un film genre de Kiss, là. Tu sais, c'est comme, c'est Kiss approved, là, de A à Z, tu sais. Puis il y a tellement de films de fanservice, de nostalgie aujourd'hui, mais en 99, il y en avait comme pas vraiment, tu sais. Fait que, ouais.
C'est Kiss pré-disco, hein, surtout. C'est comme, il y a comme des jokes là-dessus, là.
Ouais.
Genre, Kiss ne fera jamais une tune disco, puis quelques années plus tard, ils font un Was Made for Loving You.
C'est ça. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de jokes coup de coude qui aujourd'hui sont un peu lassantes dans certains films, tu sais, qui font un abus de cette nostalgie-là, mais je sais pas, dans Detroit Rock City, c'était bon. Puis pour plein de raisons, ouais, j'aime quand même ce film-là, puis ça le fait encore. Je l'avais réécouté il n'y a pas si longtemps. Mais vous, les gars, là, mettons, toi, Rémi, je sais que t'en as 36 000. Ben, en fait, les gars, vous deux, là, vous en avez 36 000 des plaisirs coupables, mais vous, vite comme ça, là, si je vous lançais la balle, là, qu'est-ce que vous auriez nommé? C'est dur, hein?
Les films d'ado, un peu... les films de Stoner, là, je pense que ça marche toujours bien. Là. Un genre de Tenacious D and The Pick of Destiny est un peu peut-être dans le même vibe qu'un Détroit Ville du Rock, là, on va le dire en français parce qu'on l'a vu en VHS. Mais sinon, moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai vu à multiples reprises toutes les franchises de films d'horreur, fait que les Vendredi 13, Nightmare on Elm Street, les Texas Chainsaw, tout. Je peux vous faire des résumés de chaque film avec les noms des personnages. Là. C'est à ce point que je suis calé dans ce sous-genre-là.
Mais moi, dans ma définition de plaisir coupable, ça vient aussi avec un élément de surprise. C'est comme si c'était un genre de film que t'aimes, que les gens un peu s'attendent pas que t'aimes, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, toi, mettons, les Vendredi 13, on t'attend là quand même.
Je comprends.
Mais t'as-tu genre un film, là, je sais pas, là, de quoi qui est vraiment pas là, dans le créneau Rémi de base, là?
Ben, le pire, c'est que je pense qu'il va avoir le pont vers un autre film que j'ai vu récemment, là, mais j'ai comme je sais pas si je peux te voler te voler le scoop,
ben, Paul,
mais j'ai vu pour la première fois récemment Les Dangereux, grand classique du Québec. Tu sais, je regarde beaucoup de classiques en pandémie, mais je suis tombé sur Les Dangereux, puis ça a été comme un espèce de...
Classique malgré lui, j'ai l'impression.
Ouais. Je suis comme tombé dans un rabbit hole, en fait, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Marc-André Roy qui produit un podcast au Québec qui s'appelle Le Balado des Dangereux, que je veux recommander, là. Tellement, c'est tellement un bon podcast. C'est des épisodes de 1 heure, puis à chaque épisode, en fait, il est avec soit un artisan, soit un acteur qui a été dans Les Dangereux. Le premier épisode, c'est avec Véronique Cloutier. Il y a Stéphane Rousseau qui est dessus. Il y a plein de monde qui n'a pas été capable d'avoir encore, mais il y a une dizaine d'épisodes de sortie à date. Puis finalement, tu sais, ça...
quand même fou.
Ouais, c'est assez précis, là, mais tu sais, c'est parce que ça part sur Les Dangereux, puis l'expérience de la personne sur le set ou whatever, là, ce que suivi aussi, là, tout le backlash qu'il y a eu. Mais c'est aussi une des discussions sur le cinéma québécois, fait que c'est quand même assez ouvert comme podcast. Mais moi, c'est là, ça, je l'avais entendu sur son podcast, puis moi, ça a juste comme ouvert le fait que j'ai jamais vu Les Dangereux au complet.
Moi non plus.
Puis je me suis fait prêter une copie en DVD et j'ai expérimenté Les Dangereux. Je vais dire ça de même, je l'ai expérimenté, puis ça a été... une révélation, c'est un vrai sobat de Let's Go québécois. Je pensais que ça allait être plate, boring, mais c'est tellement spectaculaire comme fail. Ça c'est décousu, ça fait aucun crise de sens. Il y a eu plein de monde qui ont perdu le contrôle sur ce film-là, mais au final, c'est comme vraiment un car crash que tu peux regarder avec fascination du début à la fin.
Parce que aussi, ce qui... défini pas mal ce film-là aussi, c'est qu'à l'époque, c'était comme le gros blockbuster de l'année, en termes de cinéma québécois, avec une distribution tous étoiles, puis genre... Je pense que c'est aussi... La déception était face aux attentes aussi du film.
Oui, puis je pense que si je me trompe pas, c'était pas l'année juste après de Père en flic en plus aussi. Tu sais, c'est comme... Il y a comme une nouvelle
tendance. Non, c'est avant, en fait. C'est vraiment avant, oui. C'est début 2000, c'est en 2002. Fait que ça date quand même de presque 20 ans, ce film-là.
Je me mêle avec l'appât, là. Je me suis mêlé avec l'appât.
Non, c'est ça, les Dangereux. Véronique Cloutier, Stéphane Rousseau. Un film de Louis Saya. Il y a aussi le facteur que l'humour de Louis Saya... Tu sais, Louis Saya, c'est un grand auteur. Il a quand même fait les Voisins à l'époque, Brou, puis il a réalisé Les Boys.
Radio Enfer.
Ouais, Radio Enfer, Maxing, Histoire de filles. Puis il a réalisé, entre autres, Les Boys, tu sais, Les Boys 1, 2, 3, qui sont des gros succès au Québec. Mais la force des Boys, faut vraiment se rappeler que c'est pas le visuel, c'est pas un film spectaculaire au niveau visuel. C'est juste un excellent casting, un bon scénario. Aussi des jokes qui vieillissent mal dans Les Boys, mais tu sais, reste que l'esprit de gang est tellement... Ben, on est trop fiers des Boys, hein, fait que tu sais, on l'aime. Mais Les Dangereux, ben, c'est comme... Il a essayé de vraiment réaliser un film d'action, puis... À la façon américaine, mais Louis Saya, je pense pas que son talent principal, c'est la réalisation. C'est beaucoup dans la vibe de Snatch, beaucoup Il y a du Danny Boyle là-dedans. C'est très flashy visuellement, mais il n'y a rien qui marche. Là. On est dans Génération Musique Plus. Fait que des gros effets là, de vidéoclips pour présenter des personnages. Mmh. Une narration qui débarque au bout de 30 minutes dans le film. On comprend rien. Là. C'est vraiment un train wreck.
Puis, style qui va être quand même réalisé avec beaucoup plus de succès dans Bon Cop, Bad Cop.
Oui, ah, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Exactement, tu sais, c'est un peu ils ont fini par trouver la formule pour l'adapter au Québec, mais à cette époque-là, ça marchait pas du tout. Puis c'est le seul rôle au cinéma de Véronique Cloutier aussi. Je vais pas vous commencer à vous dire des anecdotes, moi je vous dis allez écouter le balado des dangereux là, je volerai pas ses punchs, mais Véronique Cloutier est tellement généreuse et éloquente sur le podcast, puis elle parle de son expérience de A à Z, puis vu que ça fait presque 20 ans, elle a tu sais aucun filtre là, elle dit exactement ce qu'elle pense du film.
Ouais, il y a pas de danger de comme perdre un nouveau rôle.
Non, c'est ça. Puis Véronique Cloutier a sa trace ailleurs. Donc, tu sais, elle a fait tellement sa marque en télé, en radio, elle a un magazine. Tu sais, c'est vraiment, vraiment successful ailleurs. Fait qu'elle s'en fout un peu de ne pas avoir eu le succès au cinéma. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un plaisir coupable? Je viens juste de le voir, mais tu sais, c'était vraiment surprenant, puis ça me dérangerait pas de le réécouter la semaine prochaine avec vous autres, juste pour le partager avec quelqu'un, puis en jaser, là.
Ben ouais, je l'ai jamais vu, puis je t'avoue qu'il faudrait que je le voie avec du monde, ouais. Là. Fait que, ok, ça pourrait être une date,
Puis, fun fact pour finir, j'ai jamais vu ça, mais tu sais, c'est un des films où il y a eu énormément de publicité associée, donc eux autres étaient associés à Subway, un peu comme Valentine était associée au film Hot Dog, mais... C'est, en fait, c'est quand tu pèses sur Play dans le menu, c'est pas quand tu ouvres le DVD qu'il y a des pubs de Subway, c'est quand tu pèses sur Play Movie, t'as une pub de Subway qui dit Subway vous souhaite bon cinéma, mais j'ai jamais vu ça dans un DVD, là, une pub de sandwich quand tu startes. C'est vraiment bizarre, en tout cas. C'est vraiment un produit de l'époque, puis une grosse surprise. Puis en fait, je devrais pas dire ça, mais anyway, je pense qu'il est pas disponible en DVD présentement. Il est pas trouvable, mais il est disponible sur YouTube. Fait que s'il y en a qui sont curieux de le voir, il est tout en ligne gratuit. Fait que lâchez-vous là, gâtez-vous.
Qu'est-ce qui se passe avec le look de Guinadon dans ce film-là? Regarde le poster, là. C'est quoi qui se passe?
En tout cas.
Okay. C'est tout.
Fait que plaisir coupable, Paul, excuse, c'était une grosse parenthèse, mais je te repasse la balle.
Le poster des dangereux, d'ailleurs, qui fait hommage à une longue tradition des comédies québécoises, c'est-à-dire le casting sur fond blanc.
Ouais, mais ça c'est un cliché des comédies, là. Tu sais, les comédies un peu rated R souvent, là.
En France, il y en a beaucoup, là.
Ouais. Ah, ben, aux États aussi, là.
Ouais.
Ou c'est la typo rouge aussi, tu sais, c'est souvent les comédies, mettons, adolescentes un peu, là, justement, puis c'est la grosse typo en caps lock rouge, fond blanc, tout le casting. Ouais. Je t'avoue qu'en fait, ça me surprend quasiment que la typographie soit pas rouge dans le poster des dangereux.
Ouais. Donc voilà. Et
déjà, il y a 20 ans, on faisait les posters sur fond blanc, là, donc ça a comme... Ça a perduré jusqu'aujourd'hui. Menteur, l'année passée, c'était... C'est ça, c'est peut-être pas un fond blanc, là, je pense qu'il est comme turquoise, mais ça reste les deux vedettes... découpé sur le fond, en tout cas.
Ouais.
Voilà. Plaisir coupable, Paul, toi. Grosse parenthèse, là.
Ben oui, ben écoute, j'ai le goût de répondre en disant que j'ai peut-être un nouveau plaisir coupable.
Ah oui, c'est bon, ça. Alors,
avant. Parce que, les amis, sur Netflix est apparu le film épique, et je quote, je cite, Eurovision Song Contest. The Story of Fire Saga. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est genre un film un peu que droppé, ben, comme beaucoup de productions Netflix, avec comme assez peu finalement de marketing. Ça arrivait un peu comme ça. Et pour les gens qui ne savent pas, c'est une comédie produite et mettant en vedette Will Ferrell, ainsi que Adam McKay qui produit ça. C'est réalisé par un gars qui s'appelle David Dobkin et il y a également Rachel McAdams. Et c'est un peu la formule peut-être des films de Will Ferrell avec lui qui joue un personnage qui est censé être beaucoup plus jeune que ce qu'il est. Et qui va un peu... dans le fond, là-dedans, c'est deux jeunes qui sont peut-être frères et sœurs, c'est pas sûr, islandais, dans un petit village. Parce que leur père, c'est un Pierce Brosnan absolument fabuleux, là, qui vieillit très très bien. Et qui est un peu le charmeur du village, là, qui est comme des enfants qui ont un peu tout le monde. Et leur rêve à ces deux jeunes, c'est de participer un jour à l'Eurovision, qui est une, bien sûr un concours populaire de chansons pop établi en 56, mm-hmm. et qui est extrêmement populaire en Europe, pas mal moins ici. Et d'ailleurs, c'est un peu la joke que les Américains connaissent absolument pas l'Eurovision, c'est pas vraiment écouté ici. Mais tu sais, c'est vraiment gros comme... peut-être pas les Oscars, mais c'est à ce niveau-là. C'est un événement qui est regardé par des centaines de millions de spectateurs à chaque année. Et dans le fond, chaque pays, ben pas chaque pays qui participe, là, mais beaucoup de pays qui participent font leur propre comme concours régional, souvent sous forme de plusieurs galas télé. Et ensuite, l'Eurovision en tant que telle, la compétition, c'est l'espèce de genre méga compétition qui se déroule où une quarantaine de pays doivent chacun, un après l'autre, ben, en fond, ils ont désigné un gagnant. Mm-hmm. Et chaque groupe gagnant doit donc performer leur chanson pour espérer avoir les votes du public ainsi que des juges. Bon, donc ça, c'est très
rapidement. Ça, c'est dit.
Ça, c'est dit. J'ai vraiment passé beaucoup de détails à expliquer. C'est comme le mécanisme.
Non, mais c'est important.
Toutes les game shows de chansons ever, là. Mais ouais.
En tout cas, bref, peu importe. Mais non, mais c'est parce que l'Eurovision, c'est pas juste un show comme un autre.
C'est comme les Olympiques, la musique en Europe.
Ouais,
là.
Puis c'est que tu représentes ton pays c'est... plus, je pense, c'est moins.
Céline Dion avait gagné, mais tu sais, c'est que ils ont pas besoin de prendre l'artiste du pays.
Pour
c'est
la Suisse, en plus.
Tu peux être producteur, puis prendre un artiste d'un autre pays, puis le faire compétitionner. Puis Céline, je pense qu'elle avait gagné pour la Suisse, si je me trompe.
Ouais. Puis en fait, lorsqu'un pays gagne, l'année d'après, il doit accueillir ses jeux.
Ouais.
De l'Eurovision.
Donc, bienvenue à Point de vue, le podcast Eurovision. On va parler d'Eurovision pendant 3 heures de temps chaque semaine.
Mais attends un peu, là. Paul, es-tu seul à en parler ou toi, Rémi, tu l'as
vu? Moi, je l'ai vu aussi, mais je le laissais commencer, débuter, là. Donc,
okay, c'est bon.
Bref, je vais juste contextualiser un peu.
C'est bon.
Parce qu'en fait, je pense que l'appréciation de ce film-là dépend comme à 80% de son niveau de familiarité puis surtout d'attirance envers l'Eurovision. C'est-à-dire que des gens qui ont jamais entendu parler d'Eurovision, qui ne savent pas trop c'est quoi, j'ai l'impression qu'ils vont être ultra déçus. Parce que le film, je pense, s'adresse vraiment à un public d'initiés. C'est une espèce de... Bon, c'est une parodie pastiche, là, si on veut. Will Ferrell, évidemment, chante très mal dans le film. Rachel McAdams, par contre, on est allé chercher une chanteuse, une jeune chanteuse qui s'appelle Maya Marianne.
Qui a fait Eurovision, justement. Là.
Qui est excellente, là, qui a vraiment une belle, belle voix.
Puis il y a énormément de participants d'Eurovision au travers aussi, qui en ont fait à travers les années. J'en connais pas beaucoup, là, mais j'en ai reconnu quelques-uns. Le groupe Lordi, là, qui sont comme des espèces de monstres, là, avec des costumes de monstres. Ça, j'avais bien trippé là-dessus.
Ouais, ouais.
À l'époque que c'était sorti.
Parce que c'est ça, parce qu'à l'image d'un, mettons, This is Spinal Tap, qui se moquait avec beaucoup de gentillesse de la culture hard rock metal, ben le film Eurovision Song Contest se moque, mais avec beaucoup comme d'attention et beaucoup de sincérité. C'est fait quand même en connaissance de cause. C'est filmé dans plusieurs pays. Ils sont allés vraiment sur certaines scènes de l'Eurovision. Puis comme tu disais, Rémi, ils ont vraiment beaucoup... invité de gens et de personnalités connues de l'Eurovision puis d'anciens gagnants.
Ouais, je veux pas péter ton fun, mais ça se passe dans plusieurs pays, mais j'ai regardé puis c'est pas tourné en Islande pour vrai. C'est tourné en Angleterre. Mais si je me trompe pas, j'étais allé sur IMDb pour regarder parce que moi tout je me demandais, mais souvent l'Islande c'est comme des establishing shots. Puis là, quand on est proche d'eux, ben, excuse-moi, je veux pas briser ton illusion,
sur IMDb, il y a même, Husavik en Islande, il y a Edinburgh en Écosse, il y a Glasgow, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de UK, là, mais oui, Husavik.
Je suis désolé, guys, j'ai perdu mon micro.
Mais bref, toi, Rémi, t'avais semblé trouver ça très long comme film, faut dire que le film dure genre 2 heures.
Moi, en fait, j'ai vraiment aimé, je pense, la première heure. J'ai bien aimé ça. Ça suit vraiment quand même la structure classique là, du, euh, Ben, c'est ça, là, de genre, le musicien qui veut réussir, puis là, il y a comme quelques embûches à travers ce concours, puis là, il va comme monter vers les étoiles, là, tu sais, c'est comme l'espèce de ouais, c'est un format assez classique, mais ce qui rajoute la couleur, ben, c'est l'Eurovision, donc tout ce qui est du vieux pop kitsch, rock, avec la saveur des pays, des différents pays aussi. Il y a un gros soundtrack original qui est incroyable. Donc, la première heure, moi, j'ai vraiment embarqué. Justement, grâce aux numéros musicaux, là, je trouvais que c'était la force du film. C'est juste que, tu sais, c'est une comédie de Will Ferrell à la con, quand même. Will Ferrell, il prend un accent qui perd au travers du film, des fois. Là, il le fait un peu comme quand ça y tente. Là, il est vraiment pas constant dans son personnage. Mm. Ça reste, c'est Will Ferrell déguisé. Ouais. Mais je comprends pas, tu sais, que ça dure aussi longtemps. Puis il y a énormément de scènes qui sont répétitives. Genre, ils sont pas très bons, là. C'est un peu ça, la prémisse aussi, puis ils essayent de devenir les meilleurs en faisant la compétition. Puis bon, ils vont failler à plusieurs performances, plusieurs répètes, mais tu sais, c'est très, très répétitif dans sa forme. Puis il y a même des tropes classiques de ces films-là avec le Ben Chicane, mais qui vont venir 2-3 fois dans le film. Donc c'est un peu inutile qu'il y ait tous ces revirements-là. Tu sais, ça aurait fait un beau 1h40, 1h30, ben tête. Ouais. Mais c'est un peu là que ça m'a perdu. Là. À la dernière demi-heure, là, j'avais hâte que ça finisse. Ouais. Puis c'est surtout que la romance, c'est un peu plus une joke qu'autre chose. On n'y croit pas vraiment. Ben ouais, fait qu'il n'y avait pas tant besoin de comme, tu sais, rapper up puis d'y aller à fond dans cette romance-là. On veut juste comme, on comprend là, les personnages, puis c'était déjà assez. Reste que j'ai une étoile du match à donner qui est pas mal, qui est autre que Will Ferrell, c'est Dan Stevens qui fait comme l'antagoniste, qui est un russe. Qui fait genre un number avec des tigres, là. Il est genre tellement badass et tellement sexy. Peu importe votre sexe, votre orientation sexuelle, vous allez baver sur Dan Stevens. C'est vraiment là, il vole le show dans ce film-là. Puis c'est un antagoniste, mais qui a beaucoup de layers, en fait. Fait que c'est pas juste un antagoniste plate qui va voler la fille, il va voler le show. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de développement qu'il devrait en avoir pour un film comme ça. Fait que vraiment, ce personnage-là, je pense que c'est une des grosses forces, là. Ouais. Ben, fait que c'est pas mal ça, ouais, que je dirais de mon bord.
Mais je te rejoins beaucoup sur, tu sais, le rythme puis le montage, parce que en comédie, c'est crucial. Tu sais, ça peut faire ou défaire une comédie. Et là, j'avais un peu l'impression, je sais pas si vous avez déjà eu la chance ou la malchance de voir ce genre de version de film. Tu sais, des Director Scott, c'est super cool, mais en comédie, ça marche jamais. Là.
Puis, genre Judd Apatow, là, exactement, on en a parlé l'autre semaine.
Mais, oh boy! Mais encore, mettons, tu sais, Judd Apatow, des fois, les DVD, mettons, c'est avec la version longue, tu sais, avec plus de gags puis de trucs improvisés. Mais ouais. Tu rajoutes un 10-15 minutes, mettons, à Noctop, qui est déjà long, puis genre, ça devient genre imbuvable. Ben, là, on a un peu l'impression, comme c'est sur Netflix, comme il n'y a pas nécessairement le... tu sais, c'est pas la même façon d'écouter un film nécessairement. T'sais, en salle, on dirait qu'il faut vraiment que tu captes ton spectateur, tandis que sur Netflix, des fois, je pense qu'une bonne partie du public l'écoute en plusieurs parties ou fait autre chose un peu à côté. Donc, il y a comme peut-être moins cet enjeu de, tu sais, de trimer à outrance. Fait qu'on dirait que ça se sent, puis pas juste pour ce film-là, mais en général, sur Netflix... Ou d'autres plateformes de streaming, j'ai l'impression qu'il y a des projets qui sont trop longs pour ce que c'est.
Mais, ouais, mais The Irishman, je comprends que, oui, Scorsese a le droit à avoir un film de cette durée-là, puis il y a énormément de stock, mais c'est quand même fucking long, là, on va se le dire. Là. Je pense pas qu'il aurait pu faire un film aussi long ailleurs que sur Netflix. Ça déborde de toutes ces... Je pense que c'est pas mal plus long que Casino, déjà. Puis c'est un film de 3 heures. Là. Il est comme à 3h45. C'est quand même un gros morceau, là. Thank God que Netflix laisse les gens aller au bout de leurs idées. Mais pour un film comme Eurovision, peut-être qu'il aurait eu besoin d'avoir un producteur qui passe en arrière puis qui chope un peu de gag. Puis que... Quitte à faire justement un Director Scott en format physique, mais...
En même temps, je pense qu'il y a personne qui mettrait sur le même... La même attente, le dernier discours c'est dit, puis Eurovision.
Ben non, c'est ça.
Dans le sens que je pense, comme tu l'as dit, c'est une comédie à la con un peu. Et moi, honnêtement, j'ai vraiment trouvé que ce film était comme meilleur que ce que je pensais qu'il allait être. Notamment parce que la trame sonore est juste vraiment très bonne. C'est une vraie trame sonore produite, faite avec intelligence, avec beaucoup de bons collaborateurs. Il y a comme plusieurs chansons catchy pendant le film.
Mais là, c'est ça, là. C'est quoi la toune? Là? C'est là, vendez-moi un mime, là. Donnez-moi l'inside là, ben, ultime de ce film-là.
Il y en a plusieurs. Là, la première qui frappe et qui met vraiment la table pour le reste du film, c'est Volcano Man. Puis, tu sais, le clip qu'on peut voir sur YouTube, là, c'est comme ça pendant le film. Là, c'est vraiment comme une coupure, là, puis soudainement, on est comme dans un clip, si tu veux.
Il y a une fausse toune folklorique, en fait, qui s'appelle Yaya Ding Dong. Fait que les mimes qui sortent sont pas mal à propos de ça. Mais tu sais, c'est plus un verre d'oreille qu'une excellente toune. Mais ça finit par devenir une bonne toune, là. Moi, je l'ai chanté pendant 2 jours. J'étais juste plus capable d'arrêter. Puis, c'est la joke, c'est que eux, ils vont, tu sais, les gens veulent pas entendre leur vraie chanson, leur chanson épique qu'ils vont faire. Ils veulent juste entendre la maudite toune folklorique qu'ils font dans le fin fond de leur village. Fait que tout le monde gueule, tu sais, play ya ya ding dong. Puis là, ben, ils sont comme obligés, sinon le public se fâche. Donc, c'est ça.
Mais tu vois, je trouvais pas que celle-là, c'est une des bonnes tellement du film. Moi, je trouve que Double Trouble, qui est comme leur numéro qu'ils doivent.
Ouais.
Qui est comme la chanson qui représente l'Islande, elle est super bonne. Puis, vous savez que. Comme d'après le village d'où il vit, c'est vraiment une toune qui est comme émotionnelle en plus. Et genre, honnêtement, c'est sûr que le film il est con, puis la relation est 3-0, puis c'est le gag aussi, dans le sens que ils ont l'air de tout sauf de deux jeunes de 30 ans.
Will Ferrell, il est quoi? Il est genre 10 ans plus jeune que Pierce Brosnan à peu près, qui joue son père.
Ouais, on avait vérifié, c'était comme 15 ans. Mais...
Aucun sens.
Ouais.
Puis il y a aussi la toune de Dan Stevens, là, mais je vais quand même y retourner, mais je pense que ça s'appelle Lion of Love, la toune. quelque chose de même là, puis c'est comme tu sais, ben celle-là est vraiment bonne aussi, accompagnée du visuel là. C'est, il y a comme une méga chorégraphie ultra sensationnaliste, très Broadway, vraiment ça, dans le contexte du film ça marche super super bien.
Ouais,
Lion of Love.
Puis au milieu du film il y a aussi une espèce de medley avec genre plusieurs gagnants de l'Eurovision qui font plusieurs chansons de d'Abba, puis de Céline Dion, puis de comme plein de trucs. Ça, c'est un gros moment fort, là. Je pense que justement, ça, c'est comme un des climax du film. Puis peut-être que justement, la deuxième moitié, une fois passé ce cap-là, c'est un peu long. T'sais, là, mais tu sais, toi, là, j'étais avec justement quelques amis ici en Gaspésie et ma femme. Là, ça fait déjà 2 fois qu'on l'écoute. Et quand on est sur la route, on met tout le temps genre la trame sonore. Donc, c'est comme devenu déjà une espèce de classique dans mon petit cercle d'amis. Mais tu sais, je me taperai sûrement pas le film souvent parce qu'il est comme trop long, mais la trame sonore, je pense qu'elle va être comme tomber dans la rotation de mes trucs que j'écoute, un peu comme un pop star, sauf que tu sais, ça ressemble beaucoup à un pop star en fait, par le thème puis le type d'humour, etc., mais vraiment pas aussi bon que pop star, tu sais, puis notamment parce que pop star dure 87 minutes, qui est super tight, puis que les gags sont décroche-tout. Il y a quand même des bons gags dans Eurovision, mais très peu, tu sais, mais il y en a comme une couple qui font mouche, là. Il y a notamment toute une histoire avec, ça c'est vraiment une légende en Islande, les espèces de petites maisons qui appartiendraient à des elfes. Donc, il y a toute une histoire autour de ça, puis c'est des vraies petites maisons qu'on peut visiter en Islande qui existent, là. Mais ça, il y a une couple de trucs qui sont super drôles avec les elfes. Mais sinon, c'est ça, tu sais, honnêtement, je veux dire, tu te regardes l'actualité, tu regardes ce qui se passe, un truc comme Eurovision, ça fait du bien. Et pour moi, c'est exactement ce genre de films-là qui ont leur place sur Netflix, tu sais. C'est pas nécessairement un film que je serais allé voir au cinéma, mais comme sur Netflix, une comédie comme ça, ben oui, ben, tout à fait. T'sais, l'autre que j'ai vraiment hâte de voir et que j'ai toujours pas vu sur Disney+, là, c'est la captation d'Hamilton. On va sûrement en parler dans un prochain podcast, là, mais ça, ce genre de truc-là, c'est des trucs aussi que t'as peut-être le goût de réécouter de temps en temps, ou juste de mettre une toune que t'aimes ou un passage. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils fassent une espèce un chapitrage comme sur les vieux DVD.
Et puis d'ailleurs, ils sont censés faire un film sur 4, là, ça doit être malade, ça. Tom Hooper, en plus, c'est misérable. Hey, ça va être fou.
Avec Taylor Swift et Jason Derulo, puis tout.
Ouais, ça va être malade.
Hey, c'est ça va être bon, là.
Je veux juste dire quand même que, tu sais, j'ai chialé, là, mais j'ai eu vraiment du fun quand même, là. Même si la dernière partie était longue, hein, c'était vraiment un film de couch, de comment on dit, canicule, là, parce que on lézarde dans le divan avec une bonne bière fraîche, puis peut-être un petit joint avant, là, ça fait bien la job pour ce film-là. Donc, c'est pas un grand film, là, mais ça reste que c'est bien, bien le fun.
Non, mais Colin. Donc, ok, c'est bon, hein, je suis dans le joke. Ben, c'est ça. Ben, c'est moi, j'ai pas Netflix. C'est pour ça, c'est ça l'affaire. Fait qu'une fois, des fois,
t'as pas Netflix?
Non, des fois, je suis late at the party là, pour les phénomènes là, Netflix. Là. Fait que. Merci de me garder au courant.
Ben, écoute, on le réécoutera ensemble, Pascal. On t'invitera, puis on.
C'est bon.
On se fera une séance, là.
Ben, là, c'est bon. Hey, on a une movie date, là. On écoute Les Dangereux, Eurovision, puis moi, je vais choisir un film. On va écouter Satan Tango de Bellator. Ça va être une super journée.
D'ailleurs, j'ai vu que Satan Tango est disponible sur Canopy.
Oui.
Donc, pour tous ceux qui ont un compte Canopy, ben, si vous avez un compte dans une bibliothèque liée à Canopy, dont la BenQ, vous pouvez avoir donc accès à Satan Tango. C'est comme dans ma watchlist, mais je n'ai pas toujours 7 heures dans une journée.
C'est ça, c'est ça. Bon, ben.
Et nous, pendant qu'on écoute... Des triples un peu pop kitsch de Will Ferrell. Tu te tapes un excellent film français, Pascal?
Ah oui, je vais passer vite parce que je suis seul à l'avoir vu, mais juste parce que sur Letterboxd, mon Dieu, on dirait qu'on est commandité, mais sur Letterboxd, tu sais, je me suis fait une running list des meilleurs films qui sont pas de 2020. Que je vois, fait que dans le courant de l'année. Fait que ça inclut justement, ça peut inclure des films des années 50, 60, n'importe quoi, que j'avais jamais vu, que je visionne pour la première fois cette année. Puis vraiment, un des meilleurs films que j'ai vu en 2020 à date, c'est le film Le Trou de Jacques Becker. Jacques Becker, il avait fait un film avec Simone Signoret, là, Le Casque d'or, là. C'est peut-être pour ça qu'il était connu. Moi, c'est le seul truc que lui que j'avais vu. Mais c'est un film qui est un petit peu anachronique avec ce qui était hot en France à ce moment-là, puis ça pourrait peut-être expliquer pourquoi c'est peut-être pas au Panthéon ou tant que ça. Par contre, moi, pourquoi je suis tombé sur ce film-là spécialement, c'est que je scrollais, en bon français, dans les films les mieux ratés, encore une fois en bon français, de Letterboxd. Puis, Le Trou, il est à 4.4 sur 5 sur Letterboxd. C'est vraiment un film que visiblement, là, les cinéphiles adorent, mais qui n'est pas nécessairement dans les listes des plus grands films français ou des plus grands films des années 60. Parce que c'est pas du tout comme Godard ou Truffaut, là, tu sais, puis c'est ça. C'est un peu le genre de cinéma qu'on voulait foutre au vidange à ce moment-là, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas de qualité, les amis. Alors, Le Trou, c'est... on suit un personnage qui arrive en prison et qui se ramasse dans une cellule avec trois autres... Ils sont quatre au total, ouais. Trois autres... non, ils sont cinq au total. En tout cas, bref, une petite gang de prisonniers dans une cellule. Puis ils apprennent qu'en fait, eux, ils veulent s'évader. Fait qu'ils le mettent un peu au pied du mur, là, tu sais, au début, ils le testent un peu, puis ils se demandent, oh, il fait-tu confiance, on lui fait-tu pas confiance, puis finalement, effectivement, là, ils l'embarquent dans leur plan d'évasion. Puis vraiment, là, c'est un film, ben déjà, il dure plus que deux heures, il passe super bien, je dirais que c'est vraiment dans les plus grands films d'évasion de prison, là, tu sais, je veux dire, je le mettrais pas mal aux côtés de... Il y a un film américain qui était bon, Stalag 17, c'est bon, bon, The Great Escape, c'est bon, c'est sûr que Évasion de prison, Un condamné à mort s'est échappé de Bresson, c'est bon, Shawshank Redemption, c'est bon, absolument. Mais pour vrai, ouais, Le Trou, c'est aussi, tu sais, ça, définitivement là-dedans. Puis c'est surtout qu'il y a vraiment une minutie du détail, je trouve que c'est vraiment un film... En fait, c'est presque la totalité du film, c'est leur plan. Puis on est constamment dans le micro-détail de comme c'est ça là de la méthodologie de leur évasion. Fait que c'est pas tant à propos de ce qu'on sait pas, c'est on le sait qu'ils veulent s'en aller, mais c'est vraiment plus à propos de comme comment ils vont se rendre. Puis on finit par s'attacher à ces genres de dudes là, parce que c'est des dudes. Puis si bien que, puis je vous révélerai pas, il y a une finale assez choc, là, assez forte. Qui m'est vraiment resté en tête d'ailleurs longtemps après le visionnement. Puis il y a quelque chose qui est vraiment particulièrement bien réussi puis qui me parle, moi, le cinéphile, cinéaste en moi aussi. Il y a quand même des utilisations hyper intéressantes de long take. Je vais vous donner un exemple. Un des premiers exemples frappants de ça, c'est il faut qu'ils fassent un trou dans leur plancher, maintenant, puis ils font la journée où il y a des réparations dans la prison, fait que ça cogne un peu partout, puis en tout cas, fait que là, lui, il y a comme, les gars, ils se relaient pour genre taper comme sur le plancher puis scraper, tu sais, saccager leur plancher, mais c'est tout filmé en une prise. Okay. Probablement pour la raison évidente que tu peux juste scraper ton plancher de ta prison une fois, tu sais. Mm-hmm. Mais, fait que là, la caméra fait juste faire, tu sais, des tilt up, tilt down, tu sais, mettons, c'est Till Down, puis là, tu vois genre la main avec une roche qui décalisse le plancher, puis la manie, comme le gars, il est plus capable, puis là, il y a un relais. La caméra tilt up, il y a un autre des prisonniers qui arrive, qui ramasse une grosse roche, puis qui commence à varger, puis là, on tilt down, puis là, il continue à varger. Puis on voit le plancher se défaire, puis l'effort, il y a un effort déployé réel de la part de tout le monde. Puis c'est con, mais je pense vraiment que ça contribue à comment on s'attache. On veut qu'ils réussissent, tu sais. Ils travaillent vraiment trop fort, les gars, là. Puis ils travaillent fort pour vrai. Puis ça me fait donc du bien, on dirait, quand tu vois. Quand il y a un petit peu de réel qui se mélange dans la fiction.
Ouais.
Non, il y a vraiment beaucoup de belles choses. Moi, c'est une immense, agréable surprise, là, que je vous conseille. C'est hyper divertissant aussi. Un gros thriller, là, bien dense, bien fait. Moi, j'ai que du bon à dire de ce film, vraiment.
On imagine que Soderbergh a dû étudier ce film plus jeune.
Ouais, peut-être. Puis c'est ça, comme je dis, c'est un film de 1960. T'sais, fait il est vraiment comme. C'était pas un bon timing. J'ai vraiment l'impression que ce film-là est arrivé avant À bout de souffle. T'sais. S'il était sorti en 1958, disons. T'sais,
ben, déjà, on parlait de Friedkin et de Sorcerer, qui est sorti comme. C'est quelques semaines avant Star Wars, je pense, ou après. Mais,
ouais, c'est ça. Là, c'est comme.
À un moment donné, tu peux pas te battre contre l'histoire. C'est un peu ça.
Mais regarde, je regarde même sur IMDb, 8.5 sur 10. T'sais, c'est comme. Puis pour vrai, c'est un film qui plaît, je pense. C'est un film accessible, mais fichtrement bien fait. Très intelligent. Ben, boudez pas votre plaisir. Puis avec Le Trou de Jacques Becker. Super film.
Donc, cool.
Yeah.
Sinon... Parlant de plaisir. Parlant de gros plaisir et de positivisme.
Ouais, et de travail physique. Je sais pas, je sais trop.
T'as le temps de pas de transition. Pas de...
Non, mais une des rares nouveautés donc, qui va prendre l'affiche au cinéma ce vendredi 10 juillet.
Ouais.
C'est le plus récent film des frères Dardenne qui avait été à Cannes, bon, comme à l'accoutumée, on va dire. Pour eux, les habitués de la croisette, c'est le jeune Ahmed.
Oui.
Donc, il raconte l'histoire de c'est ça, un jeune garçon de 13 ans qui se laisse entraîner par un imam particulièrement intense radical. Et radical.
Ouais.
Et donc, c'est ça, c'est un peu son quotidien. comment il grandit puis qu'il va justement. Interpréter le Coran puis les enseignements de son imam.
Ouais, c'est ça. C'est un genre d'étude de la radicalisation d'un jeune homme, là, disons ça comme ça, dans la Belgique natale des Dardennes.
Parce que c'est dur un peu de parler de ce film-là
Fait qu'on... Je veux pas trop faire de synopsis. Ouais, exact.
Ben, ce qui est important aussi peut-être à savoir, c'est que sa mère est blanche.
Ouais.
Donc, tu sais, il n'est pas dans une famille radicale de base. C'est pas son environnement familial qui l'amène là. Peut-être un peu la relation avec sa famille, mais pas nécessairement sa famille qui est radicale. C'est vraiment juste la relation avec son imam qui fait que, de son côté, en étant un peu de...
L'imam, l'Internet, tu sais, un peu comme...
Exact.
C'est ça, là. Ça se pose la question, comment, finalement, un jeune... On va mettre des gros guillemets là-dessus, parce que, en fait, c'est ça, on marche sur des œufs, là, constamment, puis je pense que eux, si nous, au podcast, on va avoir de la misère à en parler... Puis on a l'impression qu'on marche sur des œufs. Imaginez les cinéastes. Genre, c'est du funambulisme, ce film-là. Puis moi, je trouve, je vais le dire d'entrée de jeu, je trouve que c'est somme toute assez réussi. Je me suis surpris à aimer ça. Surtout, moi, les Dardenne, je me suis vraiment désabonné depuis Le Silence de Lorna. Puis surtout, là, Deux jours, une nuit, là, avec Marion Cotillard, là, ouf, ça, j'ai de la misère à le... Tu sais, je trouve que, pour moi, leur grand trio, les Dardenne, là, tu sais, c'est Rosetta, le fils puis l'enfant, tu sais, je veux dire, s'il n'y en avait que trois. Puis moi, je vais le dire straight up, moi, j'ai trouvé que c'était quasiment leur meilleur film depuis l'enfant, en fait, depuis leur Palme d'Or de 2005.
Okay.
Mais il y a des mais, en tout cas, on va y venir, mais tout ça pour dire que, imaginez la job de funambulisme, là, de ce scénario-là. Ils écrivent aussi leur scénario, là, les Dardenne. Ce sont des intellectuels qui réfléchissent au monde qui les entoure. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont réfléchi d'une bonne façon?
Vas-y, Paul.
Ben, moi, je dirais que le film ouvre des discussions.
Ouais.
Le film se penche sur un sujet quand même ultra délicat, ultra tabou. C'est sûr que la réception ici au Québec va certainement être différente qu'en Europe, que dans d'autres pays, tout ça. Et c'est sûr qu'en en guise de préambule, nous sommes tous des hommes blancs au Québec, bon, athées. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas le même regard que d'autres pourraient l'avoir. Puis, notre but, c'est pas nécessairement de se moquer de qui que ce soit. Là. Et le film, je trouve qu'il fait... il étudie justement ce personnage et ce cas de figure. C'est-à-dire vivre et comment avoir la foi en 2019, 2020. Mais il est sorti l'an dernier. Et je trouve qu'il fait d'une manière quand même, somme toute, très sensible, très intelligente. Notamment parce que le film est à hauteur d'enfant. Tu sais, leur cinéma, je pense qu'ils n'ont plus grand leçon à recevoir. Là, tu sais, ils ont leur propre style qu'ils ont en partie instauré. C'est-à-dire, tu sais, caméra épaule, très libre... le film vraiment...
En même temps, assez contrôlé. Hein. En fait, il crée l'illusion, beaucoup, les Dardenne, que c'est très capté sur le vif, alors qu'ils ont une mise en place hyper précise et rigoureuse. Ils choisissent, comme c'est les maniaques de leur lieu de tournage. Là, je veux dire, combien de marches l'enfant va monter. Ils sont hyper constructivistes.
Mais la caméra, chose, ce que je voulais dire, c'est que aussi c'est que la caméra ne juge pas les personnages. C'est pas une espèce de film qui essaie d'imposer ses thèmes. Je pense qu'il essaie d'explorer les thèmes.
Essaie de laisser tes propres conclusions, effectivement.
Puis ça, c'est pour moi...
C'est des mises en place qui sont très, très manufacturées, mais quand c'est bien fait d'un Dardenne, finalement, c'est que tu le vois pas, tu as l'impression que justement la caméra fait juste le suivre, puis que ça se fait tout seul. Mais il y a un énorme travail, tu sais, je vais donner un exemple précis. Dans le film, à un moment donné, il se lie d'amitié avec une jeune fermière, là, disons tout ça, en restant vague. Puis à un moment donné, elle a fait juste se lever pour aller chercher une brindille, puis là, la caméra suit la jeune fille chercher la brindille, puis là, on voit que l'éducateur était juste en arrière et les écoutait, finalement, était proche d'eux, tu sais, les supervisait. Mais c'est con, mais... Tu sais, juste comme le mouvement de caméra qui fait, entre guillemets, juste suivre le personnage, des fois, finalement, révèle des éléments en arrière-plan ou... tu sais, tout ça pour dire que c'est plus construit que ça a l'air, en fait, finalement. C'est quand même intéressant étudier un peu le travail des Dardenne.
Puis un film comme ça, tu sais, ça se doit de rester vague et somme toute impartial. Tu sais, je pense que certaines personnes vont critiquer le film de prendre une position ou d'autre. Là, puis je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut peut-être montrer le doigt envers justement la religion musulmane, envers l'éducation du Coran ou peu importe. Mais je trouve que le film en tant que tel, pour moi, reste très respectueux là-dessus. Et une des preuves de ça, bon, c'est anecdotique, mais j'écoutais avec ma femme, puis les deux... Quand on a fini le film, on en a discuté, puis on avait comme le goût d'en discuter, et on n'avait pas nécessairement la même lecture. Et face à les différentes actions et choix, et on ne dévoilera pas tout ce qui se passe, évidemment. Et ça, je me dis, c'est bon signe. T'sais. Puis les deux, on n'était pas nécessairement d'accord sur notre appréciation, puis sur notre interprétation de ce que le film essaie de faire passer comme message et tout. Et ça, pour moi, quand même, je veux dire, si ça peut ouvrir le débat justement sur un sujet qui est peut-être pas facile, puis qui n'est peut-être pas toujours... discuter de manière aussi délicate, ben tant mieux, parce que c'est pas un film à grand rebondissement, c'est pas un film mais quand même, il y a des tensions qui sont réelles dans la société d'aujourd'hui, puis notamment ben, la place de la femme dans la religion, la place de la langue aussi, l'arabe versus le français, puis si tu parles pas un bon français, peut-être que ça va mener à avoir des moins bons choix de carrière en France.
Oui, puis si tu parles pas bien l'arabe, tu vas être rejeté par ta famille, puis si tu connais pas tes prières, c'est toute ta communauté qui va te laisser tomber. Donc, il y a comme l'espèce d'entre-deux, ouais.
Mais toi, Rémi, c'est assez rare.
Moi,
non, mais c'est assez rare que. C'est quoi ton. Il me semble qu'on a quasiment jamais jasé d'un film.
Mon passé sur les Dardenne, j'en ai pas beaucoup, ça. En fait, parce que j'ai pas vu leur classique du tout, tu sais. Puis je pense que ça vous surprendra pas d'un gars qui a dit tantôt qu'il a vu plusieurs fois chaque franchise de Freddy et Jason. Ouais. Fait que peut-être que j'ai mis du temps là-dessus à place. Mais
c'est comme une franchise, en fait. C'est les marginaux de la société. Ouais. C'est ça leur cinéma, tu sais.
Mais c'est pas, c'est sûr que moi ça n'a jamais été le genre de cinéma qui m'a comme vraiment attiré. Ben puis ça a pris certains contextes pour que j'y voie. Puis l'autre film que j'ai vu des Dardenne, ben c'est le film avec Marion Cotillard que tu parlais,
c'est
Pascal.
Moi je trouve que c'est leur pire.
Ça m'a pas tant donné le goût de creuser dans leur cinéma. Je l'avais vu au cinéma, fait que je m'étais dit bon ben leur nouveau film, je vais aller voir ça, ça va peut-être ouvrir la porte pour que là je commence à creuser. Mais ça m'a comme zéro donné l'intérêt. Puis j'ai honnêtement pas haï ça, là, ce film-là, là, comme t'as l'air de l'avoir haï. J'ai pas haï ça, ça m'a juste laissé tellement indifférent que.
Ah bon, j'ai aimé ça. Ah, tu parles OK, deux jours, une nuit.
Oui, c'est ça, le film de Marion Cotillard. Fait que. Puis là, ben, le jeune Ahmed, moi, j'ai pas mal aimé ça, en fait. Puis. Je me suis comme surpris à aimer ça, là, à ce point-là. Puis. Tu sais, je pense que c'est probablement beaucoup à cause du sujet aussi qui a été très peu traité. La radicalisation, habituellement, on la voit vraiment avec la perspective américaine où les Arabes, c'est des terroristes, ou où on va y aller vraiment dans des extrêmes de... on va essayer de le prendre par pitié puis tout. Mais là, on a tellement un regard qui est neutre puis qui nous montre plus des faits où on est comme entre le documentaire puis la fiction quasiment à certains moments. Tu sais, ça reste une fiction, il y a des personnages qui sont construits, mais les émotions puis les réactions sont tellement réelles que j'ai vraiment cru facilement à toute l'histoire. Puis les personnages aussi qui sont... tu sais, c'est des castings, des acteurs qui n'ont pas nécessairement fait énormément de films. Donc, c'est sont tellement vrais puis sont tellement bien dirigés que ça a vraiment bien fonctionné pour moi. C'est un peu un film d'une catégorie qu'on a parlé au dernier épisode, qui est la catégorie des 7 sur 10, là, où je ne pourrais pas vanter pendant une soirée de temps les mérites du film parce que, tu sais, au final... T'sais, j'aurais peut-être pris un petit peu plus. Là, on était dans... Tantôt, on parlait du film trop long. Là, peut-être que j'aurais pris un 10-15 de plus pour me donner un petit step de plus à ce film-là. Okay. Jusque où ça aurait pu mener le jeune, d'avoir un peu plus sur son background familial en wrap-up. Je trouvais que le film finissait un peu tôt, peut-être, dans okay. ce qu'il y avait à dire. J'en aurais pris un petit peu plus, mais tu sais, en somme, au niveau de la performance, de l'écriture, la caméra qui est très témoin et puis qui est pas intrusive, pour moi, c'est une belle réussite. Là. Ça me donne déjà plus le goût d'aller voir leur classique.
oui. Non, mais c'est qu'il faut les faire, les films difficiles, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, j'entends les détracteurs, tu sais, de se dire comme, bon, tu sais, les vieux intellos, tu sais, qui vont à Cannes à chaque film, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont à dire un peu sur la radicalisation? Ouais, mais, tu sais, des fois, c'est comme, ça les prend, tu sais, ces penseurs-là qui avant peut-être que ces récits-là se soient réappropriés par les principaux intéressés, tu sais, puis ensuite, j'ai l'impression que ces films-là puis ces sujets-là, ultimement, ils doivent retomber dans les mains des gens, tu sais, que mettons qu'ils sont aux premières lignes, tu sais, de ces sujets-là puis de ces problématiques-là. Mais de tout temps, de toute époque, tu sais, je veux dire, ça a comme pris. Des intellectuels privilégiés, mais qui réfléchissent profondément, tu sais, sur des enjeux de société, puis qui peuvent, tu sais, qui se permettent de les mettre en scène. Je sais que c'est de moins en moins tendance, mais moi, je salue l'audace. C'est hyper dur. Tu sais, moi, en fait, mes petits bémols, c'est des bémols de construction un peu trop obvious, un peu trop évidente. Ouais. Tu sais, à un moment donné, regarde, écoute, je révélerai pas trop, mais à un moment donné, le personnage, il fait juste dire « maman », je vais juste dire ça comme ça. Ouais. Puis tu sais, c'est un peu gros, là. Tu sais, en tout cas, il y a comme des affaires comme ça que tu sens, ah ben oui, tu sais, le bon scénario bien ficelé va faire en sorte qu'il faut que tel personnage, on boucle telle boucle, puis de telle façon. Moi, mes critiques sont bien plus de cet ordre-là.
La forme de... ça suit la forme d'une morale, c'est une espèce de leçon de morale, là, t'sais.
Ouais. Mais je trouve que vraiment, dans l'ensemble, faut pas se censurer, faut pas qu'un artiste se censure à l'attaquer. Puis somme toute, écoute, ultimement, moi, comme tu dis, je suis un Québécois homme blanc, donc mon opinion a ses limites, mais j'ai vraiment trouvé ça respectueux, j'ai trouvé ça pas idiot du tout, au contraire. Puis comme un film des Dardenne, moi, c'est aussi simple que quand j'y crois, j'embarque. Parce que la caméra, tu sais, vu que tu suis tout le temps un personnage, il faut que tu y crois, tu sais. Comme moi, Marion Cotillard avec son top rose, j'y croyais pas. Fait qu'après ça, le film, il s'écroule. Par contre, le jeune, il dit, ouais. Mais le jeune, il dit, Ben Hadi, là, qui joue le Ahmed, il est super, ouais. Tu sais. Il en fait vraiment bon. Pas. Il est super bon, mais il est low key, il en fait pas trop.
C'est vraiment un rôle difficile parce que le jeune aussi, le personnage du jeune Ahmed, tu sais, bon, il souffrait de dyslexie. Mm-hmm. Il était pas. C'est quelqu'un que tu vois qui n'a pas nécessairement beaucoup d'amis, qui est un peu renfermé, ce qui peut-être contribue à son désir de rejoindre une communauté. Puis, mm-hmm. Parce que son imam lui dit enfin, tu as de la valeur, tu es important pour moi, tout mm-hmm. ça. Donc, on voit tout un peu comme n'importe quel jeune. Parce que tu sais, c'est symbolique. L'enfant, ça représente le futur. Puis c'est pas pour rien que la mer est blanche. Mm-hmm. Les Dardennes, ils ont toujours un peu réfléchi justement à ce que devient la société. Et. Leur regard, c'est parfois, il peut être un peu paternaliste ou un peu naïf. Ce n'est pas le film des grandes révélations, comme tu le dis. Ce n'est pas toujours très subtil. Il y a d'ailleurs une espèce de scène de débat là, avec des parents d'élèves là, qui débattent sur le bien fondé d'enseigner l'arabe ou pas.
T'as pas aimé cette scène-là?
Ben, tu sais, c'est un
oui,
peu...
Je l'ai trouvé bien, moi.
On s'attend, ça se veut un peu l'écho de ce que les gens vont dire. Puis, c'est des oui. grandes lignes. Mais tu sais... Le film, en général, je pense qu'il est comme ça, est très simple. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas nécessaire et délicat et bien fait. Mmh.
C'est une force. La simplicité, ça peut être une force, je pense, ouais. aussi, dans un cas comme ça. Ouais. Excuse, j'ai coupé ton élan.
Non, c'est ça. Puis dans le fond, le génie de ce film-là passe par justement le personnage. T'sais. Puis le fait qu'il ait 13 ans, ça change tout. Si le film s'appelait Ahmed et qu'il avait 20 ans... c'est pas le même film. On n'a pas la même empathie naturelle envers cet enfant parce que, tu sais, un enfant comme ça, c'est comme c'est un canevas, tu sais, à créer. Et ça amène, au-delà de la religion, ça amène des débats sur l'éducation, l'environnement, l'inégalité des classes, des langues, etc. Donc, ça va au-delà de simplement la religion musulmane. Donc, c'est là aussi où le film a une certaine portée universelle, comme les meilleurs contes, les meilleures fables, etc. Ouais. Mais ça reste...
Je vais juste dire une chose, par exemple. Ouais. C'est parce que nous, vois-tu, je pense que ce film-là, quand il tombe... Tu sais, bon, veux pas un film des Dardennes, ça prêche un peu un genre de public. Les gens qui vont voir ce film-là, en général, ont... Ouais. Je veux pas généraliser, mais tu sais, ça tombe avec des gens qui ont un niveau d'éducation ou, tu sais, comme... peut-être... autre là. Mon point, c'est que j'ai comme peur, par exemple, aussi intelligent, je pense, que le film soit-il, puis aussi adroit soit-il dans son traitement de son sujet, j'aurais comme peur qu'il soit juste, genre, mettons, tombé sur Netflix, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est un peu comme Orage Mécanique, genre, qui a comme commencé à susciter de la violence, puis Kubrick qui dit, mais guys, vous avez rien compris, genre, ouais. Le film décrit la violence, tu sais, n'en fait pas du tout l'apologie. Ouais. J'ai l'impression que sans la réflexion, mais juste avec ce qui se passe, on peut facilement peut-être ne pas voir le commentaire.
Et démoniser la religion.
Puis effectivement, puis rester sur le one-liner de genre c'est un jeune qui se radicalise, puis tu sais, ouais. et voilà. Là. Donc,
mais ça, est-ce que ça en devient la responsabilité de l'œuvre ou est-ce que ça devient la responsabilité de la société?
Non, c'est ça.
Ça devient compliqué. Puis on a vécu un cas quand même assez similaire à plein écran cette année, en janvier, dans notre dernière édition. T'sais, on avait le film Recrue, qui est une fiction vraiment dans le style des Dardennes, et de Pierre-Philippe Chivigny. Et ça propose genre d'un. C'est un film qui se passe dans un Québec fictif, là, dans un futur proche, où il y a une espèce de groupuscule inspiré par la meute et compagnie. Mm-hmm. Qui tombent sur justement des immigrants puis qui veulent les accompagner hors des frontières. Puis bon, ce film-là, plein écran, justement, on avait un peu peur parce que c'est un film, je pense, le film Recrue, je trouve un peu comme à la façon de Jean Ahmed, aborde un sujet difficile de manière intelligente, mais c'est sûr qu'il faut être là pour accompagner puis genre voir les commentaires puis essayer de comme modérer ça parce que effectivement, avec Recrue, on a eu des messages privés, il y a eu des messages un peu, des fois, d'insultes, puis de violences, puis... C'est ça l'Internet, c'est ça la société aujourd'hui, puis je pense que toute œuvre, à un certain point, peut être mal lue, tu sais. Ouais. Ça l'était déjà, comme tu le dis, avec Clockwork Orange, ça l'était déjà avec Fight Club, Donc, rendu là, je pense que c'est pas nécessairement... Tu sais, je pense que le film a été fait avec assez de tact et assez de respect, notamment parce que, genre, on est du point de vue beaucoup du jeune Ahmed, là. Et non de... Ben, on voit aussi ses professeurs, puis sa mère, etc. Mais... et ses éducateurs, mais on est plus de son point de vue à lui. Donc, ça permet justement d'avoir une empathie naturelle. Le cinéma, c'est ça, c'est une machine d'empathie, hein? Comme disait Roger Ebert. Donc, tu sais, est-ce que le film pourrait causer... Moi, je trouvais, genre, en écoutant le film, je disais, tiens, enseigner, mettons, un cours d'éthique ou un cours de morale, tu sais, à l'école, il me semble que c'est un bon film, genre, pour ouvrir une discussion avec les jeunes.
Oui, t'as raison, c'est vrai.
C'est ce genre de film-là.
C'est pas difficile à comprendre, là.
Comme outil pédagogique, là, qui serait super. Parce qu'en plus, des fois, c'est que ça passe mieux, puis c'est aussi divertissant quand même, là, comme film. Donc, c'est un film court aussi, de comme 1h20 à peine.
1h25, mais ouais, c'est ça.
Ouais. Donc, ça donne. C'est le genre d'outil, je sais, qui pourrait tout à fait circuler dans les écoles. Ou encore, si j'étais parent, mettons, puis j'avais un jeune enfant, ben. C'est le genre de film qu'on pourrait aller voir en salle ensemble, puis on pourrait justement avoir une discussion. Tu sais, parce que c'est tellement arbitraire, là, tu sais. Puis là, on parle de religion, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être la drogue ou un gang de rue ou peu importe quoi. Mais tu sais, il y a tellement des jeunes que soudainement, ils ont un libre arbitre, ils se font influencer, ils virent mal. Puis c'est pas nécessairement parce que tu n'as pas donné un bon environnement ou que. Tu sais. Donc, le film aborde aussi ces questions-là qui sont universelles, finalement, parce que c'est toujours un peu le parent qui s'inquiète pour ses enfants puis sur ce qu'il va devenir.
Oui. Donc, mais c'est ça, moi somme toute, mais effectivement, puis c'est bien qu'on en jase, mais moi, somme toute, vraiment, je trouve que c'est un retour en forme poli là, pour les Dardenne, donc on n'est pas nécessairement, comme je disais, au sommet avec leurs plus grandes œuvres, mais moi, je trouve qu'ils ont encore de quoi à dire, puis que...
Je te rejoins là-dessus.
C'est assez réussi, ouais.
Là, que ce soit un des premiers films pour comme souligner la réouverture des salles, je pense que les habitudes des Dardenne vont y trouver leur compte. Je pense que ce serait un bon outil pédagogique. Est-ce que c'est un film que j'en faut se pitcher dessus? Si le sujet vous intéresse, puis vous êtes ouvert, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que sa portée est quand même relativement limitée. Mm-hmm. Puis effectivement, la réalité dans laquelle on vit en 2020... au Québec, c'est quand même assez tranquille, j'ai l'impression, mais tu sais, faut pas se leurrer puis croire que aucun racisme ici ou aucune. Il y a aussi des exemples ici de phobie envers les religions puis envers les gens qui pratiquent également. Mm. Donc, je pense que même ici, tu sais, le film peut avoir aussi un effet bénéfique.
Mais t'imagines-tu que le jeune comédien, en plus de porter le film sur ses épaules, il faut qu'il présente aussi le poids de toute sa communauté. Il représente sa communauté, puis il faut pas qu'il fasse de faille à ce niveau-là. Ouais. Ça reste comme un choix de carrière, puis c'est sûr que le ça va retomber sur les épaules des Dardenne aussi, mais lui, là, à faire confiance aux Dardenne, puis à se laisser guider comme ça, puis à représenter la radicalisation. Mais en tout cas, je trouve vraiment que ce jeune-là, il est assez spectaculaire, là, vraiment.
Ouais. Ben, les Dardenne, je trouve un peu comme... il y a un cinéma qui se rapproche beaucoup de Keshish, là, puis c'est des gens qui travaillent tellement avec les acteurs, puis font tellement de répétitions, puis leur style de cinéma met vraiment les acteurs de l'avant. Donc, c'est souvent des films aussi où on a des révélations, justement. Il y a des acteurs qui jouent dans un de leurs films ou dans un film de Keshish ou d'autres cinéastes similaires, qui vont donner des révélations, puis qui vont jouer énormément, ou Céline Sciamma, ou peu importe. Mm-hmm. Mais je repensais à la bande de filles, justement, puis à ces jeunes actrices qui sont comme. Tellement incroyable dans le film de Céline Sciamma.
Ouais, ouais.
Mais c'est cool les films comme ça, genre, pour, entre autres, tu sais, t'imagines l'acteur, il a sûrement 13-14 ans aussi dans la vie, quand il a fait ce tournage-là, puis c'est une chance là, quand même de vivre une telle expérience.
C'est clair.
En espérant justement qu'il se fasse pas intimider ou typecaster dans ce style de rôle. Mais...
il va se retrouver aux États-Unis puis il va faire genre un méchant dans un James Bond. C'est sûr. Là.
Faudrait pas. Mais encore une fois, c'est ça, la représentation, c'est important. Puis c'est vrai que si ultimement on aimerait qu'il y ait plus de films des minorités et que c'est pas nécessairement aux Blancs de raconter toutes leurs histoires, reste que les Dardenne auraient pu faire un autre film sur un Blanc. T'sais. Fait que quand même, il faut aussi leur donner ça.
Ben, ouais, voilà. Moi, je le recommande.
Tout à fait. Et Rémi, ça donne-tu le goût de te plonger dans d'autres films ou des Dardenne?
Ben oui, certainement. Là, c'est comme, ça reste que c'est pas un genre de cinéma qui me fait capoter, là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je creuse dans ma cinéphilie pour explorer leurs premières œuvres.
Je te dirais, les Dardenne en un film, pour moi, c'est Le Fils, en 2002, okay. Avec Olivier Gourmet.
On l'aime, Olivier Gourmet.
Puis, c'est plus tard qu'ils sont devenus un peu plus lassants puis barbants. Tu sais, Le Fils, puis mettons L'Enfant, là, c'est pas des films si lourds que ça. Ben, tu as vu Le Jeune Ahmed, ça peut passer vite. T'es investi, parce que c'est des films souvent où les personnages font des mauvaises décisions. Puis là, tu sais, toi, en tant que spectateur, t'es souvent en train de te dire « Ah non, voyons, fais pas ça. » Tu sais, fait que t'es comme... Ils sont forts pour vraiment t'embarquer dans une ride. Puis quand c'est bien fait, pour vrai, c'est pas si lourd ou barbant que ça, là. Puis Le Fils, je te dirais que c'est probablement, à mon œil, leur meilleur. Fait que, ouais. C'est la recommandation d'Ardenne.
Bien reçu.
Super. Donc, nous, on va se quitter sur la bande-annonce du film.
Il est dangereux. Ça, non, je vais essayer.
Non, mais j'avais pensé mettre la bande-annonce du film First Cow de Kelly Richard, qui va prendre l'affiche également.
J'ai hâte. Ça, j'ai hâte.
Considéré comme une des plus grandes cinéastes américaines vivantes. Donc, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul André, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Blanc.
What's your name?
King Lou.
They call me Cookie. My mother died when I was born, and then my father died. I never stopped moving.
It's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start.
You have a cow?
First cow in the territory.
This ain't a place for cows.
Well, it's no place for white men either.
I sense opportunity here.
Good Lord, give me another.
I'll give you 6 ingots for that last one.
I taste London in this game.
We have to take what we can when the taking is good.
It seems dangerous.
So is anything worth doing? A royal cow.
She barely produces a thing.
Some people can't imagine being stolen from.
Let's hope he's one of those. We got a window here, Cookie.
History isn't here yet. It's coming, but maybe this time we can take it on our own terms.